Les archives du crime. Une émission de Jean-Michel Armand sur Radio Bulle. Bonjour Jean-Michel Armand.
Bonjour Ophélie.
Alors aujourd'hui, le crime se délocalise et quitte notre département.
Eh bien oui Ophélie, c'est en regardant il y a quelques jours un téléfilm consacré à l'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui, que je me suis non pas remémoré, car à l'époque des faits, il y a maintenant 57 ans, je n'avais que 13 ans à l'époque, mais donné l'envie de vous raconter cette histoire par laquelle on est passé, faut le reconnaître, à deux doigts d'une terrible erreur judiciaire.
Oui, ben comme ça, tout le monde va connaître votre âge.
Oui, on va bientôt pouvoir fêter mon anniversaire. Mais soyons sérieux et renonçons aux faits.
Vous parliez d'un téléfilm.
Oui, un téléfilm qui s'appelle « Deux femmes », qui a été programmé le 28 février dernier sur France 2. Un téléfilm de facture assez classique, malgré tout, librement inspiré de cette affaire et réalisé par Isabelle Doval. Les comédiennes Odile Villemain et Agathe Bonitzer incarnant respectivement la juge d'instruction et celle qui, dans le film, est nommée Colette, une commerçante, femme sans doute trop délurée dans ses années 60 et qui va être accusée du meurtre d'un banquier. Un récit qui s'inspire d'un fait divers criminel qui a secoué la France il y a maintenant, je l'ai dit, plus de 50 ans. L'affaire connue comme étant celle du Bois Bleu.
Je suppose que dit comme ça, cette femme était innocente.
Permettez-moi, chère Ophélie, de préserver pour l'instant le mystère pour garder intacte l'attention de nos auditeurs.
Eh bien, en route pour le Bois Bleu.
Le 2 novembre 1965, il est aux alentours de 22h quand le téléphone de la brigade de gendarmerie de la Guerche sur l'Aubois, gros bourg du Cher, non loin de Bourges, retentit. À l'autre bout du fil, une voix anxieuse, celle de Madame Segrétin. Son mari, responsable d'une agence locale de la Société Générale, n'est pas rentré ce soir. Elle se dit très inquiète, car ce n'est pas dans ses habitudes de ne pas la prévenir lorsqu'il pense rentrer plus tard. Ce jour, dit-elle au gendarme qui a pris la communication, il est parti voir des clients et collecter des numéraires, de l'argent, auprès d'agriculteurs et d'artisans de la région. Elle donne le signalement de la voiture, une Citroën 2 chevaux, ainsi que l'immatriculation de cette dernière. Une fiche de recherche est lancée pour diffusion à toutes les brigades dès le lendemain matin. Mais le surlendemain, 4 novembre, alors que la France est en émoi suite à la disparition de Mehdi Ben Barka, ce leader de l'opposition marocaine au roi Hassan II, qui a été enlevé en plein Paris. Ça sera une véritable affaire d'État. Revenons à la Guerche, où effectivement deux bûcherons vont faire une macabre découverte au lieu-dit du Bois Bleu, route de Germigny-Lexan. Dissimulé par un taillis touffu, une deux chevaux entièrement brûlée. À la place du passager, sur le siège avant, le cadavre d'un homme recroquevillé est retrouvé entièrement carbonisé. Les gendarmes de la brigade locale sont rapidement sur les lieux et font les premières constatations. Les gendarmes, précisément, on n'a pas fini d'en parler. Tout du moins de l'un d'eux qui va se trouver mêlé à cette sordide affaire, non, pas en qualité d'enquêteur, mais de suspect. Mais nous y reviendrons dans quelques instants. Pour le moment, seule l'alliance retrouvée accrochée à la main noircie du cadavre permet d'identifier la victime. Et il s'agit bien de Georges Segrétin, 54 ans, le directeur de l'agence bancaire, disparu depuis 48 heures. Malgré l'état du corps entièrement consumé, les premières constatations réalisées par le médecin légiste vont établir qu'il a d'abord été violemment frappé à la tête avant que son véhicule ne soit incendié. L'autopsie qui sera réalisée établira assez clairement qu'il n'a pas de traces de fumée d'hydrocarbures dans ses poumons, ce qui levera le doute que la victime ait pu être brûlée vivante. Alors, un suicide ? Personne n'y croit, car Georges Segrétin, homme affable, connu pour sa bonne humeur, n'avait aucune raison d'attenter à sa vie. Une affaire glauque et lugubre, selon l'expression du procureur de Bourges, et c'est une enquête compliquée. Qui va dès lors commencer ? La découverte de ce crime sordide est de suite relayée par la presse locale, notamment le Berry Républicain, suivi bientôt d'autres articles dans les journaux nationaux. C'est la presse qui va de suite relayer le témoignage d'une personne, d'un témoin, lequel affirme que la voiture de la victime a été aperçue le jour même du crime, en fin d'après-midi, mais à une vingtaine de kilomètres de la Guerche sous le bois. Pour l'heure, C'est un indice, ou plus exactement, une information. Entre-temps, évidemment, un magistrat instructeur a été désigné. Il s'agit d'une toute jeune juge, Georgette Chouvelon, dont c'est pratiquement la première affaire criminelle importante et pour laquelle elle va désigner aux fins d'enquête la police judiciaire d'Orléans. Les inspecteurs débarquent donc dans le village avec à leur tête un commissaire, le commissaire Ayala, policier aguerri et qui ne doute pas de ses talents. Fébrile, il attend au reste incessamment une promotion à la prestigieuse brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres. Les policiers veulent résoudre au plus vite une affaire qu'ils pensent d'autant plus facile à régler qu'elle se passe chez les Plouks. N'oublions pas que dans ces années 60, la France devient résolument urbaine. Les villes sont les nouvelles Babylones de toutes les audaces, musicales, vestimentaires, culturelles. Les paysans sont alors la cible des humoristes, tels Fernand Reynaud et son sketch « Je suis qu'un pauvre paysan ». Les Baudins avant l'heure, en quelque sorte. Depuis la vitrine de son commerce de photographie tenu par son mari, Monique Casse, c'est son nom, a pourtant vu, au jour et à l'heure mentionnés dans le journal, la voiture de M. Segretin garée dans la rue principale de la Guerche. Ce que raconte la presse n'est donc pas exact. Elle décide alors de se rendre auprès des policiers pour y rapporter son propre témoignage. Si Mme Casse est une citoyenne intègre, elle se trouve néanmoins précédée par sa réputation de femme aux mœurs un peu trop libre pour l'époque. Dans cette commune de quelques milliers d'habitants, son franc-parler et son apparence soignée font d'elle la cible de tous les ragots. Gantée de cuir au volant de sa DS, elle ne passe pas inaperçue et suscite bien des commentaires dont on devine la teneur. On lui prête probablement plus d'amants qu'elle n'en a.
Une femme libre, rien de bien extraordinaire.
Vous réagissez en jeune femme d'aujourd'hui, Ophélie, oui. Mais vous oubliez un peu vite qu'à cette époque, avoir des liaisons, comme on disait par périphrase à cette époque, c'était clairement se ranger dans le rang des Messalines et autres Pandora. Son comportement choque, la décence est outragée et sans doute la gente féminine du bourg y voit comme une sorte de provocation. Sa liaison supposée avec un gendarme de la brigade locale, lui-même marié et père de famille, alimente plus fortement encore les rumeurs et les cancans. Mais aujourd'hui, ils éclatent au grand jour. Très vite, certains murmurent que le banquier aurait pu lui aussi compter parmi les élus de Mme Casse et qu'un différent entre eux aurait pu aller savoir avec ce genre de femme. Les inspecteurs vont pourtant s'apercevoir qu'il manque pourtant cruellement d'éléments tangibles. Tous les témoins entendus n'apportent rien de déterminant. Ceux qui pensent avoir vu contredisent celles et ceux qui pensent avoir entendu. La sempiternelle histoire de l'homme qui a vu l'ours et qui finalement n'a rien vu du tout. Aussi, le commissaire Ayala prête-t-il une oreille attentive à ce que vient raconter cette Monique Casse. Mais ce premier contact est de suite empreint de suspicion. Est-ce le style de la dame qui ne plaît pas aux policiers ou s'est-il déjà laissé convaincre par la rumeur ? Misogyne, le commissaire ? Peut-être. Quoi qu'il en soit, Monique Casse confirme que le jour du crime, elle a bien vu Georges Segretin sur la place de l'église à 18h alors qu'il s'apprêtait à monter dans sa véhicule, sa fameuse deux chevaux. Elle est certaine de l'heure puisqu'instinctivement, elle a regardé l'horloge de l'église. Si le policier est dubitatif, c'est qu'il a ses raisons. Il a sur son bureau le rapport du médecin légiste, lequel établit que la mort du banquier se situe aux alentours de 16h, 17h tout au plus. Monique Casse n'a donc pas pu voir le banquier une heure plus tard. Mais tiens, au fait, que faisiez-vous cet après-midi du 4 novembre ? Monique Casse se cabre et répond assez sèchement que sa vie privée ne regarde nullement la police, renforçant évidemment la suspicion du commissaire qui va rapidement se persuader que cette femme, décidément trop délurée, cache sûrement quelque chose. Revenant le lendemain matin à la charge au domicile même de la commerçante et devant ses enfants, le commissaire laisse planer un scepticisme empreint de cynisme. Lui qui s'est frotté toute sa vie aux truands les plus retors, ce n'est pas une petite bonne femme d'un trou perdu du Berry profond qui va mener la danse. La femme du photographe va bien être obligée d'admettre que cet après-midi-là, elle avait effectivement rendez-vous à Bourges avec son amant, le gendarme Jules Barreau, celui qui précisément fut un des tout premiers sur la scène du crime. « Ah oui, et dans quel hôtel vous êtes-vous retrouvé ?» lance le commissaire, préjugeant que forcément, ces rendez-vous en ville devaient cacher des frasques inavouables. Mais Monique Caz affirme que ce jour-là, il n'y eut point de rendez-vous coquin. Si elle a bien rencontré son amant, c'était pour lui signifier une rupture. Elle ne voulait plus, dit-elle, de ces étreintes minables volées sur les emplois du temps. Sans doute s'était-elle déjà lassée de cette liaison qui durait depuis quelques mois déjà. Dès le lendemain, le commissaire convoque de nouveau Martine Caz, avec une jubilation à peine dissimulée. « Votre alibi ne tient pas, chère petite madame, car votre... enfin, monsieur Jules Barreau vient juste de nous déclarer qu'il n'a jamais été votre amant et que, conséquemment, il n'avait aucune raison d'être à Bourges avec vous cet après-midi du 5 novembre. Au reste, ce jour-là, il était sur la tombe de ses parents, ce que confirme son épouse. Alors, qu'avez-vous à dire ? » Sonnée par cette déclaration, Monique Caz découvre, mais un peu tard, que voulant protéger son mariage, Jules Barreau vient de la trahir. Et ce faux témoignage va s'avérer lourd de conséquences. Le 23 novembre, Monique Caz est placée en garde à vue. Même si la presse ne donne pas son nom, tout le bourg sait qu'il s'agit bien d'elle. Dès lors, le commissaire, acharné à la perte de Monique, veut la pousser aux aveux. « Avouez, mais avouez donc que Georges Segrétin était aussi votre amant et que vous l'avez tué, sans doute parce que vous étiez probablement, comme pour les autres, lassé de lui, mais à coup sûr parce que l'argent était aussi bon à prendre. Et c'était là votre vrai mobile. Madame Caz, votre commerce de photographie ne marche pas très fort, n'est-ce pas ? Alors, se débarrasser de Monsieur Segrétin, c'était faire d'une pierre deux coups, non ?» Monique Caz, en larmes, ne dit rien. « Madame Caz, reprend le commissaire, tout irait beaucoup mieux pour vous comme pour moi si vous reconnaissiez tout cela. » Mais la jeune femme ne reconnaît rien du tout et réfute point par point les accusations dont elle fait l'objet. Faute d'éléments vraiment probants, le commissaire est bien obligé de la laisser partir. Aux interrogatoires humiliants s'ajoute aussi la vindicte populaire qui ne désarme pas et une presse déchaînée. La croqueuse d'amant, la voleuse de mari, Monique la dévergondée, tels sont les qualificatifs dont les journalistes la gratifient. L'implacable machine d'une enquête manipulée va mener à une nouvelle garde à vue de la commerçante et du gendarme le 17 janvier 1966. Car un nouveau témoin est formel. Il a vu, le jour du crime, la deux chevaux du banquier à proximité de la Peugeot 403 du gendarme et de la petite Volkswagen de Monique Caz. Preuve que ces trois-là se connaissaient bien. L'interrogatoire serré se poursuit jusqu'à 4 heures du matin. Mais Monique Caz ne lâche rien. « Vous me voyez, dit-elle, sûre d'elle, faire griller un bonhomme dans sa deux chevaux ?» Les inspecteurs qui ont pris le relais ne sont pas loin d'être persuadés que Monique Caz dit là la vérité et que depuis le début, ils suivent une fausse piste. Il va donc falloir, une fois de plus, la relâcher. Mais le commissaire Ayala s'y oppose fortement. Pour lui, au contraire, l'affaire est pliée, comme on dit. Il sera, du reste, assez persuasif auprès de la jeune juge. « C'est la reine des dissimulatrices, je vous le dis, l'archétype de la rouerie incarnée. » Les deux ex-amants sont inculpés et incarcérés à la maison d'arrêt de Bourges. Tout le monde sait qu'au terme de leur procès, ils risquent maintenant la guillotine. Ça y est, cette fois, on la tient à la garce. La presse est toujours aux abois et un journal comme France Dimanche, qui n'a jamais fait dans la nuance, tire à sa une. Monique la diabolique. On va jusqu'avant, dans le journal, à la crier, dans les rues du bourg, les vendeurs juchés sur un camion publicitaire du journal. Ambiance. Mais le commissaire Ayala en fait peut-être un peu trop. Et face aux questions très précise de la juge Chouvelon, il se montre trop sûr de lui, voire un poil arrogant. Mais qu'est-ce qu'elle en connaît, cette petite juge fraîchement sortie de l'école de la magistrature, doit-il se dire. Moi, madame la juge, je me fie à mon instinct de flic qui a 25 ans de métier. Et ce n'est pas parce qu'elle nie effrontément qu'elle n'est pas coupable. On les connaît, ce genre de bonnes femmes. S'agace le commissaire face à la juge, maintenant saisie de doute. Car Monique Cass ne fléchit pas et ne cesse pas impressionnée par les menaces policières. Dans le cabinet de la juge Chouvelon, elle craque. Ah non, pas des aveux. Elle craque, comme peuvent le faire celles et ceux qu'on accuse sans preuve. Simplement parce que la rumeur publique vous a d'emblée désigné comme coupable. Mais coupable de quoi ? D'avoir des amants ? Oui, madame le juge, j'ai eu et j'ai des amants. Un certain nombre, mais bien moins que ceux qu'on veut bien me prêter. Si vous m'en demandez les raisons, je vous répondrai que je n'ai plus envie depuis longtemps déjà de faire l'amour avec mon mari. Ce qui ne veut pas dire que je ne l'aime plus. Non, je l'aime et j'aime ma famille. Oui, quoi qu'il en dise, Jules Barreau a été jusqu'il y a peu mon amant et je ne sais pas pourquoi il a décidé de me compromettre par de fausses déclarations. Il était bien avec moi à Bourges l'après-midi du 5 novembre aux alentours de 15h. Et non, madame la juge, Georges Segrétin, lui, n'a jamais été mon amant. Quant à l'argent, si je suis à l'aise, comme on dit, cela provient de l'héritage confortable que mon père m'a laissé. Cela me permet de vivre comme je l'entends et d'en faire profiter ma famille, car c'est vrai, les affaires du magasin de mon mari ne sont pas très florissantes. Si on imagine que la jeune magistrate ait pu être sensible aux explications données par Monique Cass, elle n'en reste pas moins professionnelle et ses accents d'apparente sincérité ne suffisent pas à la convaincre tout à fait. Ce qui va faire définitivement douter Georgette Chouvelon, c'est quand elle va s'apercevoir que la procédure policière est entachée d'irrégularités, audition des témoins orientés avec des questions fermées qui n'autorisent pas de nuancer ses propos, témoignages manipulés, tel celui de cette jeune adolescente de 14 ans qui affirmera dans un premier temps auprès des policiers avoir vu le banquier entrer dans le magasin des cases le jour du meurtre aux alentours de 17h. Auditionnée de nouveau par la juge, cette adolescente avouera avoir simplement répété ce que sa mère lui avait demandé de dire. Georgette Chouvelon va dès lors faire ce que peu de magistrats instructeurs font. Elle va refaire tout le travail d'enquête initiale, réinterroger tous les témoins, refaire avec son propre véhicule le trajet entre la Guerche sous le bois et le Bois Bleu et finir par se convaincre que le commissaire Ayala et ses hommes ont mené une enquête empreinte d'une totale partialité. C'est qu'elle subodore maintenant un des inspecteurs, André Navarro, va venir le lui confirmer. Écœuré par les pratiques de son commissaire, il vient raconter comment l'enquête a été bidouillée et qu'on a guère cherché ailleurs, tant le commissaire Ayala a été de suite convaincu de la culpabilité de cette commerçante qui, au premier contact, ne lui a pas plu. Les silences méprisants de cette femme trop délurée et les mensonges d'un pauvre type sous emprise de cette femme débauchée ont fini de le persuader de la justesse de ses intuitions. Dès lors, la juge n'a plus le choix et après 43 jours de détention, Monique Cass et Jules Barreau sont remis en liberté provisoire. Quelques semaines plus tard, la juge, définitivement convaincue que le dossier est vide, rendra une ordonnance de non-lieu. Ce n'est qu'un an plus tard, fin 1966, que le vrai coupable va être confondu. Il s'appelle Ernest Rodrigue, c'est un ouvrier agricole perclus de dettes qui n'a trouvé d'autre moyen de se renflouer que de tendre une embuscade au banquier afin de lui dérober la sacoche contenant les fameux 2000 francs. Il a donné préalablement rendez-vous à Georges Segrétin pour évoquer avec lui le report de ses échéances de crédit. Quand ce dernier arrive chez lui vers 18h, il fait déjà presque nuit. Le banquier n'a pas le temps de sortir le dossier que Rodrigue lui assène déjà un terrible coup sur le crâne. Coup qu'il va redoubler avec un cruel acharnement. L'arme du crime, une barre de fer, sera du reste retrouvée au fond de son puits. Il va ensuite charger dans la deux chevaux le corps pantelant du banquier et va l'asseoir à la place du passager avant et le calant comme il peut, il fait ensuite, dans la nuit, les quelques 15 kilomètres qui le séparent du Bois Bleu. Là, Dans un chemin creux qu'il a préalablement repéré pour sa discrétion, il replace le corps à la place du conducteur. Du coffre, il sort le jerrycan d'essence qu'il avait pris soin de préparer, arrose copieusement le véhicule, puis l'enflamme. Il rentrera à sa ferme à pied, sous une pluie fine et froide de novembre. Arrivé chez lui, son épouse lui fera remarquer qu'il rentre bien tard et que ses vêtements sont tout boueux. Il évitera la question en disant qu'il avait fort à faire. En plein cœur précisément de l'affaire, alors que la presse et la justice s'acharnaient sur les deux innocents, Ernest Rodrigue, rongé sans doute par le remords, avait rédigé une lettre anonyme, évidemment, à destination de la juge Chouvelon, tentant de les disculper. Aux assises du Cher, il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité, sans que les pratiques d'enquête des policiers n'aient pu être évoquées. Les débats montreront que Rodrigue avait fait ce qu'il pouvait pour laisser croire, ça et là, dans le village, que la police n'était pas sur la bonne piste. Alain, il confiait par exemple qu'il connaissait trop le gendarme Barrault pour le croire coupable d'un pareil forfait. À un autre, il disait qu'à son avis, le crime devait avoir des imbrications politiques et que ça devait venir de ceux d'Algérie, car Georges Grétin était un rapatrié d'Algérie, un pied noir, et qu'on ne trouverait certainement jamais les coupables. Il disait aussi, dans les cafés du bourg, tout de suite après l'assassinat, que si on tenait l'auteur, le salaud, il faudrait lui faire subir le même sort que celui qui avait été réservé à la victime. En d'autres termes, le brûler vif, lui aussi. Drôle de bonhomme que cet Ernest Rodrigue, assassin par cupidité. Cette affaire illustre la facilité avec laquelle quelques policiers ont orienté une enquête pourtant dénuée de preuves. Les méthodes utilisées ont longtemps constitué un cas d'école et illustrent la fuite en avant d'un commissaire peu scrupuleux. La fragilité des charges, faux témoignages, fabrication d'éléments et incohérences, on l'a vu, ont été combinées pour faire de Monique Casse et de Jules Barrault les coupables idéaux. Mais si les enquêteurs indélicats ont été mutés, seul l'inspecteur Navarro ayant dénoncé les faits a fait l'objet d'une mesure disciplinaire, un blâme, avec inscription à son dossier pour n'être pas passé par le canal de sa hiérarchie. L'attitude de la presse, tant régionale que nationale, n'aura pas été non plus des plus exemplaires. L'ostracisme dont Monique Casse, son mari et leurs trois enfants ont été les cibles n'a malheureusement pas cessé après l'arrestation du véritable coupable. « Ils ne m'ont jamais pardonné d'être innocente », dira-t-elle, au regard des calomnies qui courent encore sur son compte, selon le principe qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Le commerce du couple a périclité et les enfants ont longtemps fait l'objet de moqueries et les calomnies ont perduré. En 2006, 41 ans après les faits, Gérard Boursier, un enseignant originaire des lieux, a consacré un ouvrage à cette affaire et n'a pu que constater les dégâts occasionnés par ce tragique fait divers criminel. L'ouvrage, introuvable aujourd'hui, vient tout juste d'être réédité aux éditions Malpaso, Radio Caroline Média. Bien que le meurtre du Bois Bleu soit aujourd'hui peu cité, son souvenir demeure vivace dans la commune de La Guerche-sous-le-Bois, où l'on parle encore 57 ans après de l'affaire Monique Casse, de l'affaire du Bois Bleu. Nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, dans 15 jours sur cette antenne pour de nouvelles affaires criminelles que je vous garantis pour cette fois 100% Lot-et-Garonnaise.